Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Victor Wembanyama, vous connaissez ce jeune intérieur français des Spurs dont on parle un peu, voire pas mal, voire énormément cette saison, et il le mérite. Est-il déjà, à 20 ans, le meilleur défenseur du monde? Voilà, on va se poser la question. Alors, elle peut paraître prématurée, alors qu'on se demandait encore il y a peu seulement s'il allait être élu rookie de l'année, hein, ce qui semble se rapprocher honnêtement. Et pourtant, que ce soit dans ses stats individuelles ou dans son impact réel, visible, tangible, Wemby est clairement un candidat à ce statut de défenseur numéro 1. Et c'est ce qu'on va voir avec Geoffrey Steins. Salut Geoffrey.
Salut Xavier, salut tout le monde.
Et Maxime Aubin, notre correspondant à San Antonio. Salut Maxime.
Bonjour Xavier, salut à tous.
Allez, début du game. Alors, se demander si Victor Wembanyama est le meilleur défenseur du monde, c'est déjà se demander s'il va être élu meilleur défenseur de la saison. Même si on sait que ce sont deux choses un petit peu différentes, parce que dans le vote pour le défenseur de la saison, il y a des histoires de collectif, il y a des histoires de statut aussi. Mais on peut se poser la question déjà, et Maxime, je te la pose à toi, est-ce qu'il est déjà dans la discussion pour le DPOI, le Defensive Player of the Year? Est-ce qu'il est l'un des favoris ou est-ce qu'il est le favori?
Il est clairement dans la discussion. Ses dernières prestations, là, depuis... Depuis deux mois, en gros, parce que sa montée en puissance, elle date de janvier. Donc, sur les deux derniers mois, il est absolument extraordinaire de chaque côté du terrain, mais évidemment en défense. Donc, oui, les médias américains, les joueurs de la Ligue ne parlent que de ça en ce moment. Donc, il est carrément dans les discussions. Après, est-ce qu'il l'aura sur les derniers jours? Voilà, le bilan, c'est qu'il pourrait mériter d'être élu meilleur défenseur d'année. Mais évidemment, tu l'as dit en intro, Le bilan collectif des Spurs va peser un peu dans la balance, parce qu'ils sont, voilà, ils sont 22e, 23e défense seulement de la Ligue. Donc voilà, il est dans la conversation concrètement. Je pense que tout le monde est en train de se rendre compte que, bien sûr, qu'il est déjà concrètement, individuellement, le meilleur défenseur de la Ligue et du monde. Et voilà, je pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il va battre tous les records. Il va en gagner plus que personne aussi, mais voilà, pour l'instant, il est encore un rookie et il est dans une équipe qui gagne très peu encore pour l'instant. Donc, c'est ce qui va l'empêcher, en fait, cette saison de décrocher ce premier trophée, a priori.
Tu es aussi sûr de ça, Geoffrey?
Oui, a priori, il part de trop loin. Comme l'a dit Maxime, il y a une montée en puissance sur les derniers mois que beaucoup datent de son passage, de son installation au poste 5 en tant que pivot titulaire des Spurs, parce qu'en gros, voilà, il y a un peu deux phases dans la saison de Victor Wembanyama et des San Antonio Spurs. C'est cette première phase qui va du début de saison, donc fin octobre à début décembre, où il joue poste 4 à côté d'un poste 5 le plus souvent, qui était régulièrement Zach Collins, en tout cas au coup d'envoi. Et ensuite, à partir du 8 décembre, il est installé au poste de pivot avec un profil différent, Jeremy Sohan en poste 4 à côté de lui. Et c'est là que Victor Wembanyama va prendre une autre dimension sur son impact défensif et que le niveau collectif des Spurs va aussi s'élever défensivement. On le voit, en 2024, les Spurs, c'est la 17e équipe à l'efficacité défensive. On rappelle, l'efficacité défensive, c'est le nombre de points encaissés sur 100 possessions. Donc voilà, 17e, on est dans la moyenne de la Ligue finalement. Et l'impact individuel de Wembanyama quand il est sur le terrain, c'est l'impact, l'équivalent de la défense de Boston, qui est la troisième meilleure équipe de la Ligue sur l'année civile. Donc on voit que l'impact de Wembanyama et la réussite collective défensive est en amélioration constante au fil des semaines. Et c'est là où ça ouvre de belles perspectives pour l'avenir. Après, pour être DPOI dès cette saison, ça me paraît très très ambitieux.
Ce qui est marrant sur ce poste de, je reviens sur ce poste de pivot, il n'est pas forcément naturel pour lui en plus, hein, parce que je me souviens, on en parlait avec lui au tout début de la saison, lors de la conférence de presse de rentrée des Spurs, c'était début octobre, et lui se voyait à l'époque, moi je suis un 4, je suis un ailier fort, j'ai toujours été meilleur dans ma carrière en France à côté d'un 5, et finalement on a vu que, comme tu l'as dit Geoffrey, il a fallu que, voilà, qui force sa nature, qui finalement se repositionne et qui soit en 5. Et finalement, c'est dans cette position-là qu'il est en train de dominer les débats. Et c'est dans cette position-là qu'il va aussi dominer la NBA dans les années à venir.
Mais on est d'accord que les Spurs, alors amélioration en 2024, j'ai bien entendu ce que tu dis Geoffrey, mais globalement, on est sur la 24e efficacité défensive, 25e au point encaissé. Si en gros on les lit meilleurs défenseurs, d'une certaine manière, c'est qu'on tire tous les traits sur l'histoire du fait que le basket est collectif, même si on sait que la NBA a déjà supprimé beaucoup de barrières.
Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est un peu la même logique qu'on a pour le MVP, par exemple. On ne va pas donner le MVP à un joueur qui évolue dans une équipe qui est la 25e ou 26e.
Même s'il marque 38 points par match.
Exactement. Voilà, dans la notion de DPOY, il y a cette notion d'être impactant, même si je n'aime pas ce mot-là, mais d'avoir de l'impact dans une défense qui est en réussite collectivement. Donc forcément, aujourd'hui, pour Victor Wembanyama, c'est très compliqué. Et comme tu nous l'avais bien souligné dans la préparation du podcast, il y a un très bon exemple avec David Robinson, qui n'est même pas All-NBA First Team sur sa saison rookie, alors qu'il est rookie of the year, qu'il est sixième du classement MVP et qu'il a des stats 3,9 comptes par match, 1,7 interceptions, et que les Spurs sont la deuxième équipe de l'Ouest. Et ils sont le quatrième defensive rating de la ligue. Donc voilà, les Spurs à ce moment-là sont monstrueux. Robinson a un impact défensif énorme. Et pourtant, parce qu'il est rookie, il n'est même pas dans la première équipe all-defensive.
Cette année-là, David Robinson, il n'a pas un seul vote dans le meilleur défenseur de l'année. L'année suivante, il est deuxième de ce classement. L'année d'après, il est vainqueur. Mm. Donc on voit bien qu'il y a une histoire quand même, que c'est vrai que ce trophée... comment dire, un peu réservé à des joueurs qu'on va appeler Madré. Alors justement, Maxime, si ce n'est pas Wembanyama qui est élu, qui sont les favoris ou qui est le favori à cette heure?
Pour moi, c'est évidemment Rudy Gobert, de très très loin. On en parlait aussi en préparant ce podcast, mais concrètement, individuellement et collectivement, c'est celui qui a l'impact le plus important aujourd'hui en NBA, le premier net rating défensif personnel. Et dans l'équipe qui a la meilleure efficacité collective, donc moi je pense que voilà, il mérite amplement d'être élu meilleur défenseur de l'année. Et en fait, il faut se rappeler aussi un peu de à quel point il a pu changer le visage en fait des Wolves cette saison. L'année dernière, il arrive avec son énorme contrat, tout le monde le critique en disant qu'ils vont absolument rien faire. Ça se passe pas forcément très bien l'année dernière. Au final, en février, je pense que ce qui lui a fait beaucoup de bien, c'est le départ d'Angelo Russell, l'arrivée de Mike Conley. Mais voilà, cette saison, l'équipe des Wolves est transfigurée. Ils sont numéro un à l'Est. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Rudy Gobert mérite amplement d'être meilleur défenseur. Et il faut aussi dire aussi qu'il est aussi bien mieux entouré que Victor Wembanyama. De ce côté-là, au sein de l'équipe, vous avez Karl-Anthony Towns, vous avez des mecs comme Jaden McDaniels, Alexander Walker, donc voilà, il est mine de rien aussi bien mieux armé à côté de lui pour gagner ce titre.
Le rôle de Rudy Gobert, on en a beaucoup parlé, surtout en début de saison. C'est un rôle assez original, que beaucoup ont décrit un peu comme un safety, c'est-à-dire ou un roamer, en gros quelqu'un qui reste tout autour de la raquette en lâchant son joueur, autant que le permettent d'ailleurs les règles NBA qui sont assez spécifiques là-dessus. Et tout est fait pour lui amener les joueurs, donc pour mettre en valeur ses qualités défensives qui sont déjà énormes à la base. Victor, c'est pas du tout ça, Geoffrey. Victor, c'est quelqu'un qui se débrouille dans un système encore très imparfait, d'où le fait qu'on lui voit des qualités monumentales, mais peut-être pas pour être, comment dire, le défenseur institué de l'année.
Oui, il y a un côté taulier défensif chez Rudy Gobert, vraiment le leader d'une défense qu'est Victor Wembanyama un peu naturellement, mais forcément, ça... Enfin, c'est différent dans la concrétisation collective, je dirais, parce que Victor Wembanyama, il arrive à faire des highlights défensifs parce qu'il est impressionnant, parce que visuellement, ça saute aux yeux. Rudy Gobert, il ne va pas forcément faire des highlights défensifs, mais par contre, toutes les petites choses, tous les petits gestes qu'il va faire, les petits déplacements, sa façon de compenser le moindre petit écart qu'il peut y avoir sur la première ligne, etc. Ça, c'est le très haut niveau, c'est l'élite tout simplement de ce qu'on peut faire sur le niveau défensif. Et en plus, là vraiment, je suis d'accord avec Maxime, pour moi, il n'y a même pas de débat en fait sur l'identité du défenseur de l'année cette saison. Le seul truc qui aurait pu pénaliser Rudy, c'était ce qu'on appelle aux États-Unis une voter's fatigue, c'est-à-dire que les votants en aient marre de voter pour la même personne, sachant que Rudy l'a déjà eu trois fois, en 2018, en 2019 et en 2021. Mais voilà, ça fait deux saisons qu'il ne l'a pas eu. Il y a une espèce de, aussi de rédemption chez Rudy Gobert dans sa façon d'être, dans sa façon d'être perçu par le public, par les médias américains. Donc je pense que là, aujourd'hui, ça ne fait pas beaucoup de doutes sur l'identité du défenseur de l'année en fin de saison.
Oui, vous avez raison de parler de Victor et de son rôle par rapport à celui de Rudy qui est très différent, parce que j'ai l'impression qu'il il joue un peu parfois les pompiers de service, en fait. Il est là un peu pour aussi dépanner les adversaires. J'en parlais pas mal avec ses coéquipiers ces derniers temps. Et en fait, il y a de ça aussi, en fait, dans le jeu de Victor pour l'instant. C'est que régulièrement, en fait, il lâche son adversaire, son match-up principal, et il vient, en fait, aussi pour essayer de dissuader, en fait, tous les joueurs. Donc, si un joueur lâche son gars, bah, vous avez Victor qui est là en second rideau et qui n'hésite pas à monter dessus. Et c'est ce que me disait Keldon Johnson après le match à Indiana, presque en rigolant dans le vestiaire à la fin du match, en me disant on fait de notre mieux en grand en défense, mais voilà, si on n'y arrive pas, si on est battu, on sait qu'on a Victor derrière en couverture et ça nous rassure quelque part. Donc je pense que Victor, il est un peu au four au moulin. C'est assumé aussi parce que pour l'instant, voilà, il est un peu seul, mais il n'hésite pas aussi à sortir de son rôle et à monter haut, à monter au périmètre, à essayer d'être un peu partout pour essayer de défendre.
Y a quand même quelque chose qui joue, je trouve, en faveur de Rudy Gobert, c'est que, en gros, la défense étant un effort collectif, ce n'est pas que l'attaque ne l'est pas, mais la défense ne permet pas de combler des déficits. Et il y a un besoin d'un rôle de leader aussi dans la défense. Et Rudy, on va dire, est un capitaine de défense que n'est peut-être pas encore Victor, tout simplement parce que Victor est jeune, découvre. Il a besoin de se faire sa place avant peut-être de pouvoir prendre ce statut qu'a déjà Rudy Geoffrey.
Notamment sur l'aspect vocal, on le voit, un défenseur comme Rudy Gobert, il va tout le temps scanner le terrain, replacer ses coéquipiers, voir qu'il y a un mismatch quelque part et faire en sorte que le marquage soit à nouveau intéressant pour sa défense. Il y a une vision globale de la défense chez Rudy Gobert qui est vraiment élevée en art, que forcément Victor n'a pas encore, mais en fait ça s'appelle de l'expérience, du vécu. Rudy Gobert a vécu X milliers de situations en NBA dans sa carrière. Pour l'instant, c'est pas le cas de Victor Wembanyama, mais ça viendra, en fait, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais c'est là où c'est très intéressant de les avoir tous les deux en sélection à terme, on l'espère, dès cet été. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis, mais voilà. Forcément, Victor Wembanyama va énormément apprendre de ce temps aussi qu'il va passer à côté de Rudy Gobert en sélection.
Maxime, il y a un joueur avec lequel Victor est parfois comparé parce qu'ils sont ils se ressemblent un petit peu, on va dire, c'est Anthony Davis. Ce serait pas un peu Anthony Davis le modèle entre guillemets défensif de Victor, sachant que Victor semble être quand même un Anthony Davis x2?
C'est une bonne question. Je trouve que c'est quand même des profils assez différents. Déjà physiquement, parce qu'Anthony Davis, on est quand même sur un sacré molosse physique. Il est aussi beaucoup plus petit, mine de rien, même s'il culmine déjà à 2m11, 2m13. Victor Wembanyama, concrètement, je trouve qu'il a un profil assez similaire à celui de Chet Holmgren, par exemple, aussi, qui, lui, pour le coup, si on parle encore une fois potentiellement des joueurs qui pourraient gagner ce titre cette saison, même si c'est un bon exemple, parce que Chet Holmgren, il est rookie encore. Mais lui, pour le coup, Chet, voilà, il est dans une équipe qui est cinquième meilleur ratio de la Ligue avec OKC. Et dans le profil, et quand on regarde un peu les stats, que ce soit le nombre de contres, la capacité, on va en parler après aussi, de Victor et de Chet, du coup, à garder les ballons en jeu après les contres, et ben voilà, moi je pense que voilà, il est plus proche d'un profil comme celui-là, et ça, Chet Holmgren, ça pourrait concrètement être un des outsiders, ouais.
Si je comparais ça avec Davis, Geoffrey, c'était aussi pour le côté justement agrégation dans les stats de contre, d'interception. C'est-à-dire en gros, pas seulement attendre deuxième rideau, le joueur saute et j'ai un bon timing donc j'arrive à le contrer, mais c'était le côté main active, tout ce travail autour de la raquette pour empêcher circulation du ballon, le fait de le poser à terre. Voilà, il y a quelque chose chez Victor, et c'est pour ça que je pense qu'on dit c'est probablement déjà le meilleur défenseur de la NBA, c'est son côté suractif.
Ouais, aidé par son envergure. Je pense que, et c'est là où je trouve qu'en effet, il ressemble un petit peu à Anthony Davis dans le profil physique, c'est qu'Anthony Davis, comme l'a dit Max, est plus petit, par contre d'être très long bras, qui lui permettent justement d'être beaucoup sur les lignes de passe, d'être à la fois présent sur le côté vertical et horizontal du terrain. Et c'est vrai que Victor, là-dessus, est dans le même moule. Et en effet, il y a une énorme activité chez Wembanyama, où il est tout le temps en mouvement, tout le temps à essayer de contester les tirs, de contester les passes et à réfléchir à la situation d'après, que ça soit en phase, enfin, la phase défensive et aussi l'initiation d'une phase offensive. Donc c'est ça qui est très intéressant avec, avec Wembanyama. Et en effet, il y a des comparaisons, je pense, possibles avec, avec Davis, avec Chet Holmgren, avec Giannis Antetokounmpo aussi, qui est assez évidente. Et c'est vraiment ce type de défenseur élite dans une catégorie dans laquelle est rentré Wembanyama finalement très naturellement. Et c'est ça qui est assez fou, en fait, parce que ça reste quelqu'un qui a 56 matchs de NBA à son CV, quoi. Et déjà, le comparer à ces mecs-là, sans parler même du fait que il est candidat pour être dans le top 5 du titre de meilleur défenseur de l'année. Rien que rentrer dans cette catégorie, c'est exceptionnel.
Mais tout ce qu'il fait a l'air exceptionnel, est exceptionnel. Notamment sur les stats. Alors j'ai fait un peu exprès, entre guillemets, de ne pas parler des stats individuelles dans la première moitié, parce qu'on en parle tellement en NBA, tout est tellement focus sur les chiffres qu'il aurait été peut-être dommage de trop s'arrêter là-dessus. Mais il faut en parler, Maxime, les stats alignées par Victor Wembanyama, et encore, on voit bien que c'est le début de sa carrière, parce que ça monte de façon exponentielle. C'est quelque chose d'hallucinant. Il est déjà meilleur contreur avec une belle avance sur le reste. Il y a cette fameuse histoire des stocks, c'est-à-dire le mélange de steals, interceptions et blocks, les contres, où il archi-domine tout le monde. Il a plus de contres en février que les autres ont de contres et d'interceptions. Bref, il y a un moment tout simplement où le débat de savoir si c'est le meilleur défenseur ou pas va être tué par les statistiques, non ?
Complètement, tu l'as dit. En fait, il y a une chose absolument rare dont tu viens de parler, c'est que, je n'ai pas la statistique précise, mais c'est très très rare d'arriver à accumuler autant de comptes et d'interceptions. En général, les deux ne vont pas ensemble. C'est un big man, c'est un pivot, mais qui arrive à gérer les deux en même temps. Tu en as parlé, mais évidemment, donc il y a les statistiques individuelles. Meilleur contreur de la ligue, je crois qu'il est 12e au rebond, il est 15e au nombre d'interceptions. Donc ça, c'est des statistiques clairement importantes pour le type de défenseur de l'année. Après, ce qu'il a aussi, c'est cette capacité à dissuader les adversaires de s'approcher, de shooter près de lui. Ça donne souvent des scènes hilarantes, de plus en plus dans les matchs où vous voyez des attaquants adverses arriver en pénétration et puis d'un coup faire demi-tour et pas oser shooter. Il a aussi cette capacité à gêner aussi les tirs quoi qu'il arrive. On le voit souvent, par exemple, un joueur qui va shooter à 3 points, lui il se trouve au niveau de la raquette, il saute les bras en l'air pour cacher la vue en gros du joueur. Et là-dessus aussi, j'ai pas les statistiques, mais je crois qu'elles sont intéressantes. Il gêne énormément de tirs. Et ce qu'il a aussi pour lui aussi, c'est cette capacité à défendre aussi à plusieurs positions, quoi. Voilà, il est sous le panier, il peut monter aussi au périmètre, il peut être concrètement partout. Il y a un chiffre aussi qui m'a intéressé, c'est que globalement, c'est évidemment aussi le premier dans la ligue à ce niveau-là, c'est qu'il bloque 6% des tirs adverses par match en moyenne. Donc c'est complètement hallucinant. Deuxième derrière lui, je crois que c'est Kessler avec Utah qui a environ 5%, après Brook Lopez à 4%. Donc voilà, 3,4 comptes par match, 6% des tirs par match adverse bloqués.
Sachant que, alors je crois que l'année dernière, c'était 10% carrément des tirs contrés sur Boulogne-le-Valois, où, rappelons-le, en France, on joue 8 minutes de moins, et qu'il avait une moyenne qui était déjà très élevée. Donc effectivement, ouais, et en plus, autre statistique qu'on oublie, essentielle, 98e temps de jeu de la Ligue. Moins de 30 minutes par match, ce qui veut dire que le jour où on se retrouve à du 35-36 minutes, même si je ne suis pas persuadé que Popovic le fasse sur 82 matchs, on va encore augmenter et atteindre des moyennes, Geoffrey, qu'on voyait dans les années 80, c'est-à-dire des Manu de Bol et des Mark Eaton à 5 comptes par match, voire des Olajuwon qui étaient à plus de 2 interceptions et plus de 4 comptes, quoi.
Oui, exactement. On est dans ce range-là. Et c'est vrai que pour rester un peu dans les stats, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est on parle de ces interceptions, de ces contres. Tout ça, ça résulte d'une forme de prise de risque. Pour intercepter un ballon, pour contrer un tir, il faut prendre des risques. Et malgré cette prise de risque, il est à 2,2 fautes par match. Par exemple, il y a un Jaren Jackson Jr. qui a été élu défenseur de l'année la saison dernière. Il a toujours eu des gros problèmes de fautes, notamment au début de sa carrière, où, par exemple, sa saison sophomore, il tourne à 4 fautes par match. Et ça montre que déjà, il y a une forme de maturité défensive et d'intelligence sur « je joue un maximum de coups défensifs, mais sans commettre les fautes qui peuvent à la fois permettre à l'adversaire d'aller sur la ligne des lancers ou après poser des problèmes tactiques, etc., m'obliger à sortir du terrain ». Il n'y a pas ce problème avec Victor parce que il utilise déjà parfaitement toute l'étendue de sa palette physique et technique sans se mettre à la faute, sans en faire trop, sans en rajouter. Et ça, c'est une vraie qualité défensive, de ne pas en faire trop, justement. Faire juste ce qu'il faut pour ne pas mettre en péril l'équilibre défensif collectif. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et après, une autre stat que j'aime bien regarder, c'est l'impact qu'on a sur les tirs suivant la zone du terrain et suivant la réussite que devrait avoir l'adversaire avec la position, l'identité de l'adversaire, etc. Là, aujourd'hui, sur les shoots à moins de 2 mètres, Il y a la réussite de l'adversaire direct de Wembanyama, elle baisse de 10% par rapport à ce qu'elle devrait être en temps normal. Sur les tirs à deux points global, c'est 6,5%. Donc l'impact, il est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et donc ça se montre pas, c'est pas que des contres, c'est pas que des tirs où il va toucher la balle, mais en fait, c'est ce que disait très bien Max, c'est la dissuasion, c'est à quel point tu rentres aussi dans le cerveau de l'adversaire à force de tout le temps être présent, de lever les bras et l'adversaire il voit même pas le panier. Je pense qu'aujourd'hui, jouer une défense cornaquée par Victor Wembanyama, ça doit être un enfer pour l'attaque adverse et ça doit prendre vraiment au cerveau. Il y a vraiment un impact psychologique qu'il ne faut pas négliger.
Tu le dis bien, Geoffrey. Après, c'est juste peut-être pour relativiser là-dessus, il me semble avec l'expérience que dès qu'un défenseur commence à devenir vraiment impactant et dominant, on ressort ces stats-là justement et elles reviennent régulièrement. Je pense à Rudy Gobert à l'époque où il s'était imposé. Je me souviens même de Clint Capela qu'on suivait parce qu'il arrivait au championnat de France. C'était pareil, on disait regardez, il est sur 12%, 10% d'impact sur les tirs adverses.
À partir de 10%, t'es quand même dans l'élite. Tu vois, regardant les stats, t'es dans l'élite. Je dis pas que c'est exceptionnel par rapport au reste des défenseurs élite, mais il est dans cette catégorie élite.
Mais là, c'est vrai qu'on parle d'être le meilleur défenseur du monde. Et j'avais fait une interview dernièrement d'un ancien très bon contreur au championnat, Dounia Issa, et il disait cette chose, Maxime, qui toi tu dois constater quasiment au jour le jour. Il disait, il y a un truc qui est incroyable avec Victor, c'est qu'il ne laisse passer aucune action. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit à l'opposé, totalement absent du système adverse, pour ne pas essayer un contre. Moi, il y a une action qui m'a marqué dernièrement, c'était celle sur John Collins, je ne sais pas si tu vois laquelle c'est. En gros, il tente une interception en tête de raquette, il arrive presque à avoir la balle, sauf que il n'arrive pas à l'avoir, mais comme il est lancé vers l'avant, il est très en retard, et il arrive malgré tout à combler 2 mètres ou 3 mètres de retard en une seconde pour aller contrer Collins sur la planche. Et en fait, ça, c'est ce que tu dois voir au quotidien, c'est-à-dire ce côté de Victor ultra compétiteur.
C'est exactement ça. Non, je me rappelle de l'action, et on voit qu'il est presque au niveau de la ligne des lancers francs, au moment où le joueur va tirer, et on se demande comment, une seconde après, il arrive à le contrer. C'est absolument dingue, et c'est un peu l'effet visuel, en fait, quand on voit l'image, quand on est là concrètement, c'est impressionnant.
On voit bien d'ailleurs.
On est vraiment d'être dans Space Jam, hein, c'est pour ceux qui l'ont vu. Mais son côté compétiteur aussi, il ressort évidemment. Sincèrement, moi, je suis assez choqué et surpris par son niveau justement de cardio et d'activité tout au long du match. Il prend énormément de coups. Il est sans arrêt en train de bouger. Je pense qu'on a vu seulement peut-être au dernier match où il a eu un coup de fatigue face à Houston, parce que les deux matchs d'avant, il prend énormément cher au poste bas. On ne lâche pas. Il y a souvent des prises à deux aussi sur lui, mais voilà, il a une activité. Ce serait intéressant de voir combien de kilomètres il court par match, parce que ce soit en phase défensive, justement, il contre, interception, hop, il part à fond de l'autre côté. Ce serait intéressant de regarder ça, parce qu'il est partout et il lâche rien. Et j'expliquais ça aussi tout à l'heure, c'est que il montre aussi l'exemple pour ses coéquipiers. Donc, c'est un coéquipier débordé. Voilà, il prend le relais, il monte dessus, et pas de souci, il va essayer aussi de contrer ou d'empêcher un shoot, quoi.
Très intéressant ce match contre Houston, parce que il a eu un souci au milieu du deuxième quart-temps. Une entorse à la cheville, mais on a eu l'impression aussi d'un énorme coup de pompe, ce qui est un peu logique. Il n'a pas eu de rookie wall, hein, l'oublions pas. Normalement, il y en a un, lui, au contraire, il est monté. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus du tout d'impact de sa part, parce qu'il ne montait plus avec cette sorte de tonicité hallucinante qu'il peut avoir à aller contrer un tireur à 3 points, par exemple. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une belle réponse à ceux qui disent « Oui, mais il fait 2m24, oui, mais il a des bras interminables. » Oui, enfin, s'il n'a pas d'activité, en fait, les mecs, ils s'en servent comme viseur. Moi, ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. Geoffrey, il y a un truc aussi qui est essentiel. On aurait presque pu en parler en premier. Tu as essayé d'en parler, je t'ai coupé, parce que justement, je voulais qu'on garde une vraie question entière là-dessus. On a l'impression qu'il réinvente le contre. Il ne fait pas des contres pour contrer. Combien de fois on a vu des contres de Sean Kemp arriver au 5e étage des tribunes ? Là, on ne voit jamais ça. On voit un mec qui contre, petit, récupère la balle, repart.
Bah, c'est vrai que c'est ce qu'on avait un peu comme tendance dans les années 90-2000. En tout cas, c'est ce qu'on voyait dans les highlights qu'on s'échangeait. C'est les gars qui envoyaient la balle au troisième rang des tribunes. Et c'était un peu une façon d'humilier l'adversaire. Là, chez Wembanyama, il y a quelque chose qui est plus dans l'affiliation avec Bill Russell, par exemple, qui était vraiment... qui avait popularisé cet art de contrer tout en gardant le ballon en jeu dès les années 60, parce que Bill Russell, il était programmé, on va dire, pour gagner, il n'était pas programmé pour faire le show. Chez Victor Wembanyama, il y a un peu la même idée, c'est il est là pour gagner, il n'est pas là pour faire le spectacle et faire des highlights sur les réseaux sociaux, ça ne l'intéresse pas vraiment. Voilà, en effet, il a cette logique de contrer en laissant la balle dans le terrain, soit pour lui-même, soit pour un partenaire. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça valide le fait que Wembanyama, il a un temps d'avance à toutes les échelles. On a l'impression qu'il a un temps d'avance dans sa carrière, dans son évolution globale sur le jeu. Et en fait, à chaque petite action sur le terrain, il a un temps d'avance aussi. Et c'est pour ça qu'un geste défensif, dans sa tête, c'est aussi un geste offensif. C'est aussi la première pierre d'une attaque pour son équipe. On va pouvoir après développer du jeu rapide. Lui-même peut monter la balle comme un meneur de jeu. Ou alors, si la meilleure solution, c'est de refiler le ballon à Trey Jones ou à Devin Vassell qui partent pour aller jouer un 4 contre 3, bah, il va le faire aussi. En fait, il fait tout dans le sens du jeu et dans le sens de la réussite collective. Et c'est ça qui est beau, en fait, quand on voit un joueur comme Wembanyama.
Geoffrey a complètement raison sur le fait qu'il n'est pas du tout dans l'esthétique. Ça, pour en avoir posé la question, en fait, il se fout de à quoi ça va ressembler, du highlight. Il est là pour l'efficacité. Et oui, je lui ai posé la question aussi d'où ça venait, cette capacité aussi à contrer, etc. Il dit qu'il y a un mélange d'instinct et aussi quelque chose, évidemment, aussi qui travaille énormément tout le temps. Mais voilà, c'est l'efficacité. Et quand on regarde les chiffres aussi, là, j'ai sorti une stat qui est hyper intéressante, je trouve. C'est que 61% de ses contres par match, il les récupère seul, c'est-à-dire que la balle ne sort pas, c'est-à-dire qu'il récupère sur ce ballon, et 67% de ses contres sont récupérés par lui ou des coéquipiers. En gros, bref, près de deux tiers de ses contres restent sur le terrain et aboutissent à une possession d'espérance. Donc c'est complètement hallucinant.
Je me souviens d'avoir parlé avec d'autres collègues dernièrement, dont un me répondait très justement, je m'excuse pour lui, je ne me souviens plus qui c'est, mais il disait très justement, oui, il se la donne à lui-même pour pouvoir remonter la balle, mais parce que c'est le seul pivot qui sait remonter la balle avec Joel Embiid. Mais c'est vrai que si Rudy Gobert se redonne la balle, il va vite falloir qu'il la lâche. Ce n'est pas du tout pour chambrer Rudy Gobert, c'est pour dire que Victor a encore... En fait, Victor est en train de... On réfléchit à savoir si c'est le meilleur défenseur de la NBA actuelle. Mais en fait, il faudrait peut-être se poser la question à l'envers pour une fois. Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de s'affirmer comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire? Tout simplement parce qu'il va révolutionner probablement la façon de défendre. Si les autres joueurs se mettent aussi à réfléchir au contre, non pas en termes de dissuasion, mais en termes de début d'une action de jeu rapide, or on sait que c'est là qu'on marque le plus facilement, il va changer la NBA. Maxime, Geoffrey, je ne sais pas qui veut répondre.
Clairement, je pense qu'on est déjà en train de parler de ça. Je me rappelle aussi du sujet que j'avais fait sur le Rookie of the Year, là, sur la course Rookie of the Year et le bilan de l'article, c'est exactement ça. C'est de dire que ça ne sert à rien de le comparer aux joueurs entre guillemets actuels, en fait. Donc là, pour le Rookie de l'année, c'était avec Shuttle Murren, mais en gros, c'est pareil pour le défenseur de l'année, en fait. C'est que là, aujourd'hui, je pense qu'il est au-dessus de tout ça et il faut le comparer aux meilleurs joueurs de l'histoire, déjà, aux meilleurs jeunes de l'histoire de ce côté du terrain. Et que, ouais, moi, je pense que très concrètement, il va en gagner plus que personne des DPOY dans sa carrière, concrètement. Je pense qu'on est voilà, face à un joueur qui révolutionne la manière dont on défend en NBA, et c'est pour ça aussi qu'on a voilà, pour l'instant un peu de mal à comprendre. On essaie de voilà, comprendre le phénomène un petit peu, mais c'est pas évident parce qu'il est en train de tout révolutionner, clairement.
Tout révolutionner, pas seulement la NBA, peut-être même le jeu international, puisque Geoffrey, tu avais commencé à aborder le sujet à un moment. On pourrait avoir la meilleure paire d'intérieur défensif de l'histoire, voilà, meilleure paire défensive de l'histoire avec Rudy Gobert en équipe de France.
Ouais, clairement, je vois pas de paire, en tout cas au niveau international, qui a atteint, sur le papier en tout cas, un tel niveau qui aurait atteint un tel niveau de domination. Après,
complémentarité, parce que ça c'est essentiel.
A priori, il y a de la complémentarité. Après, voilà, pour l'instant, on parle de papier parce qu'ils n'ont pas une seule minute en commun finalement. Sous le maillot de l'équipe de France, donc va forcément y avoir un petit temps d'adaptation. Ils auront des réflexes similaires peut-être dans un premier temps. Il va falloir apprendre à gérer la vie ensemble, on va dire, pour que tout ça fonctionne du mieux possible. Mais oui, sur le papier, c'est hyper intéressant. Dans les exemples qu'on a pu trouver, on parlait des frères Wallace à Détroit, de Rodman, Lembeer à l'époque... à Détroit aussi. Mais je pense que la meilleure comparaison que tu as pu mettre dans les exemples, c'est Duncan Robinson. Tim Duncan et David Robinson, hein, pas l'arrière du Miami Heat.
Gros défenseur. Non, pardon.
Ouais, je ne le mettrai pas dans cette catégorie-là. Parce que je pense que c'est ce qui se rapproche le plus du duo Wembanyama-Gobert, dans le sens où il y a un niveau de dissuasion physique, mais il y a aussi une grande intelligence défensive et en effet, cette complémentarité qu'il y avait entre Tim Duncan et David Robinson, qui était hyper intéressante, on peut retrouver ce même niveau de domination défensive. Vraiment, quand on songe à ce duo qu'on va retrouver a priori au JO à Paris, c'est une folie parce qu'on se dit que les équipes adverses, quand elles vont rentrer proche du panier, comment elles vont trouver la moindre solution pour aller jusqu'au cercle, quoi. C'est une vraie question qui va se poser. Et en fait, la seule façon de battre l'équipe de France, ça sera probablement de shooter de 7-8 mètres et espérer qu'on soit dans un jour de réussite incroyable.
Pour oui, que... sauf que ce jour-là, c'était Guillaume de Goulet, notre chef, qui nous le disait, il y aura peut-être Andrew Albici, ouais, ouais. Nicolas Batum et Bilal Koulibaly sur les postes extérieurs pour défendre et diriger les autres. Donc, ça va être compliqué pour les adversaires.
C'est clair. C'est un vrai, vrai défi qui s'annonce pour les équipes adverses. Après, il y a les Monstars américains qui viendront et ça va être une autre paire de manches. Mais je pense que contre le commun des mortels des sélections nationales, ça va être très, très impressionnant à voir.
Maxime, j'imagine qu'on en parle... Enfin, non, je vais question ouverte plutôt parce que je ne suis pas à ta place. Mais cette association Wembanyama-Gobert, est-ce que les Américains en ont conscience, voire peur?
Pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, ils n'en ont rien à faire. Alors, ils sont très auto-centrés, hein, vous le savez. Non, ils n'en parlent pas du tout. Honnêtement, aujourd'hui, on parle même très peu, encore une fois, des Jeux Olympiques pour l'instant, à part pour simplement annoncer quel joueur a rejoint les JO dans la Team USA pour l'instant.
Et justement,
pour revenir à ce sujet.
Joel Embiid, parce qu'avec sa blessure, parce que finalement l'arme fatale étant en défense Gobert-Wembanyama, il faut une arme fatale aussi en attaque, en face. Et Joel Embiid, s'il y a un doute maintenant qu'il aille en équipe de France, un beau lapsus, en équipe des États-Unis.
Ouais, je pense que c'est un peu la pièce manquante qui manquait à Team USA concrètement, parce que là, on connaît les joueurs absolument extraordinaires qu'ils peuvent avoir, mais ils ont toujours eu un petit peu de mal à l'intérieur, en tout cas récemment, donc. Donc ça semble être un peu le chaînon manquant. Après, il faut voir s'il va pouvoir déjà y participer, s'il va pouvoir revenir en play-off cette année, comment il se sentira physiquement. Mais c'est clair que c'est une sacrée arme fatale face au duo Gobert-Wembanyama, potentiellement. Moi, ce qui m'intéressait en fait là-dedans, c'est aussi d'avoir votre avis, parce que je me dis, on est Vincent Collet, on affronte Embiid ou Team USA. Comment est-ce qu'on fait jouer aussi Rudy Gobert et Victor Wembanyama ensemble? Parce que Victor Wembanyama, ça fait, comme j'expliquais, ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'il a pris ses habitudes au poste 5, même si c'est un 5 moderne qui monte énormément. Et voilà, comment les faire jouer ensemble? Honnêtement, je n'ai pas forcément la réponse pour l'instant.
Alors j'espère surtout que le staff des Bleus aura cette réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà vu des duos beaucoup, beaucoup, beaucoup moins complémentaires. C'est-à-dire la capacité de Victor à défendre les petits, à monter, laissera des possibilités d'articulation. Le seul souci, c'est le faible temps accordé aux équipes nationales. Il y aura malgré tout 5 ou 6 matchs de préparation face à des fortes équipes. C'est quand même des joueurs de très, très, très haut niveau. C'est-à-dire qu'ils intègrent et ils digèrent des informations très vite. Et honnêtement, je n'ai pas un doute sur le fait que le staff de l'équipe de France, avec ses compétences, rappelons qu'il y a Kenny Atkinson qui est rajouté cette année au staff, qui est l'adjoint de Steve Kerr aux Warriors, en plus de Vincent Collet, qui suscite un respect international. J'imagine qu'ils trouveront des solutions, mais vraiment, j'insiste, c'est pas comme si on avait associé deux pivots baobab de 2m15 qui sont incapables de mettre... C'est pas Mark Eaton et Greg Ostertag. Donc là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude. Après, à savoir comment les articuler, ce sera une finesse que là, par contre, j'ai pas le niveau pour interpréter. Et Geoffrey, je pense que c'est un peu pareil... En gros, on salive. Voilà. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette discussion où j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de doute. C'était une question, mais on affirme déjà qu'en gros, Victor Wembanyama est peut-être pas le meilleur défenseur du monde, mais au moins le plus impactant et le plus spectaculaire à ce jour. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça me semble être ça. Merci, messieurs, et à bientôt. Ciao, ciao.